pouvez manquer.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je viens avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jeanne, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Amis du lundi, Hardy, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de Restons Courtois, votre émission de débat en partenariat avec Boulevard Voltaire, avec Valeurs Actuelles, avec Le Monde Moderne et L'Incorrect. L'Incorrect qui fête son 100e numéro. On en fera un gros sujet la semaine prochaine. Et ce soir, nous avons la joie et l'honneur d'accueillir Laurence Trochu, députée européenne de Identité et Liberté, et qui siège avec le groupe ECR, pour parler donc de son initiative en faveur des chrétiens de France et d'Europe. Ce matin, j'avais fait un petit jeu de mots qui n'a pas été compris. On a parlé des chrétiens, comment défendre les chrétiens d'Orient, mais non, j'avais bien écrit les chrétiens d'Occident.
C'est un sujet.
C'est un sujet, voilà, on en arrive à ce stade-là. donc, avec elle, nous reviendrons sur sa volonté de créer une plateforme numérique européenne pour recenser les actes antichrétiens, et sur la nécessité de nommer un coordinateur européen de lutte contre la haine antichrétienne au sein de l'UE. Grosse actualité internationale ensuite, d'abord avec le Japon qui applique une politique de fermeté totale contre l'immigration illégale, qui est marquée par un fort volontarisme avec des contrôles stricts, des expulsions en continu. En clair, donc, Tokyo veut réduire à zéro le nombre d'immigrés en situation irrégulière, mais zéro pour de vrai. Et ce plan zéro, donc le gouvernement l'applique avec le soutien de la population et des médias japonais dans un pays où on considère encore qu'enfreindre la loi, c'est illégal et que donc il faut que ce soit puni. Alors cela suscite évidemment l'indignation en France où c'est vrai que le passage des paroles à l'action semble toujours un scandale et où les prétendus clandestins manifestent devant les préfectures. Donc évidemment, on comprend que ça choque. Action toujours avec l'Italie, où la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, a fêté le 4 septembre le record de longévité pour un gouvernement depuis l'après-guerre. Elle a donc 1413 jours à la tête de l'État, et donc avec ce score, enfin ce résultat, la Romaine dépasse désormais le deuxième gouvernement de Silvio Berlusconi. Et voilà, donc avec nos sociétaires, nous allons chercher la clé de son succès et voir si elle peut espérer doubler la mise à l'approche des législatives en Italie. Action encore avec la percée de l'alternative Für Deutschland en Allemagne, donc qui sera l'actualité majeure de notre rendez-vous de la réinformation, donc de la deuxième partie de cette émission, dimanche 6 septembre, donc hier, pour ceux qui nous écoutent en direct. Près d'un électeur sur deux, 44% au dernier pointage, a voté pour Ulrich Siegmund, donc qui est le candidat de l'AfD, pour les élections régionales en Saxe-Anhalt. Et là encore, nous essaierons de comprendre les causes de ce succès qui a mis l'Europe sous le choc. Et puis, parce qu'il faut quand même rire un petit peu, nous reviendrons en France et nous nous moquerons des propositions de Clémence Guettet, qui est députée LFI, mais qui est aussi vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui est co-directrice de l'Institut La Boétie, donc qui est la branche intellectuelle de LFI, et qui publie un livre dans lequel elle fustige la famille, ça plaira à Laurence Trochu, qu'elle décrit comme une création réactionnaire sur laquelle les nazis avaient bâti leur programme et leur vision du monde. Je ne plaisante pas, elle l'a vraiment écrit.
C'est dans le texte.
Oui. Et elle fait en revanche la promotion de l'amitié, parce que l'amitié, c'est anticapitaliste, monsieur, et pour l'amitié, elle réclame des droits nouveaux, et notamment le pax amical, la possibilité de suivre un ami muté dans la fonction publique.
Non.
Ah, si, si. La semaine de 32 heures...
Muté, ça veut dire qu'il change de poste, non pas qu'il a muté lui-même.
c'est pas une transition de genre, c'est autre chose.
Semaine de 32 heures avec l'assurance, et là aussi je cite, d'un droit au papotage en entreprise. Non mais je jure, c'est vrai.
Il existe déjà.
Bah oui, mais elle veut l'officialiser.
Oui.
Et elle veut que ce soit garanti, voilà.
C'est génial.
Et c'est formidable.
La machine à café pour tous, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Et à côté, donc, Marine Tondelier paraît bien minable à côté, puisque la candidate verte à la présidentielle, elle avait réclamé des lunettes pour tous pour l'éclipse, Et là, ouais. elle se contente de réclamer la pénalisation du mensonge en politique. Donc, littéralement, elle veut tuer le métier.
Là, il y a des clients, là.
Donc voilà, bah alors on peut en rire évidemment, mais malheureusement l'expérience nous a appris qu'il ne faut pas prendre les fous, les débiles et les gauchistes à la légère. J'espère que Jean-Yves a noté la manière dont je maîtrise l'antenne, hein, puisque je n'amalgame pas les gauchistes, tous les gauchistes à des fous et des débiles. Mais ces gens, voilà, donc aussi stupides soient leurs idées, sont souvent extrêmement sérieux et déterminés. Donc, pour parler de tout cela, bah, j'ai la joie d'accueillir les Saxons de la Réinformation avec Richard de Sèze, directeur de la rédaction de Radio Courtoisie.
Bonsoir.
Arthur de Vatrigan, directeur de l'Incorrect.
Bonsoir.
Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia, et Xavier Van Leerde, journaliste. Alors, chers auditeurs, vous pouvez nous écrire, vous pouvez poser vos questions à Laurence Trochu, donc en envoyant des messages au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85. Ou en envoyant un courriel à courtoisie@rc.fr. Alors, je me tourne maintenant vers vous, Laurence Trochu. Donc, vous êtes l'auteur de « Maman, j'ai vu Jésus », qui est sorti aux éditions Via Romana récemment et dont Arthur de Vatrigan faisait l'éloge hors antenne. Mais vous venez nous voir aujourd'hui pour un autre sujet, même s'il n'est pas absolument éloigné, qui sont les persécutions antichrétiennes en France et en Europe. Alors, vous avez, avec quatre autre confrère, collègue de ECR, donc un Polonais, un Croate, un Luxembourgeois et un Italien, vous lancez le site internet Stop Christianophobie, pardon, et vous êtes aussi à l'initiative d'une pétition pour créer le poste de coordinateur européen de lutte contre la haine antichrétienne au sein de l'Union européenne. Alors, bah, première question, comment vous est venue cette idée ?
Je dirais d'abord, on a senti ces phénomènes de haine antichrétienne et leur propagation, enfin, pas un jour sans que finalement il y ait eu une dégradation d'église, une attaque de prêtres ou de religieuses quand c'est pas malheureusement parfois même l'assassinat. Et en fait, on savait qu'il existait ce poste de coordinateur contre la haine anti-musulmane et contre l'antisémitisme. Et que pour protéger les chrétiens sur leur propre terre, finalement, il n'y avait rien. Alors au départ, moi, je me suis dit, c'est pas étonnant. On est chez nous, on est sur une civilisation chrétienne qui n'a pas à justifier de sa présence, dont on espérait qu'elle reste naturelle, entre guillemets. Et en fait, il y a une injustice là, absolument, à réparer, précisément, parce que aujourd'hui, et si vous regardez les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur, Laurent Nunez, notamment dans une interview à La Croix, à la suite d'un rapport qui a été travaillé par son propre ministère, dit qu'en France, 40% des actes anti-religieux sont des actes anti-chrétiens. Le chiffre, c'est 40%. 46% sont des actes antisémites et 14% des actes anti-musulmans. Donc ça rabâle, ça remet aussi, je dirais, l'Église au milieu du village.
C'est le cas de le dire.
Et donc, au point que Laurent Nunez a quand même donné une interview à La Croix, c'est pas anodin. Donc il y a une prise de conscience, parce que la France, au sein de l'Europe, a en plus cette particularité d'être particulièrement concernée par le sujet. Alors c'est vrai que je suis aidée dans cette démarche par des collègues des pays que vous avez cités, parce que de fait, nous réclamons ce poste de coordinateur qui a différentes missions. D'abord, collecter des données, parce que finalement,
ce sont des sujets qui ne sont pas reconnus depuis très longtemps, finalement. Le racisme anti-blanc a longtemps été totalement nié, invisibilisé, comme disent nos amis gauchistes. La haine antichrétienne a l'air aussi d'être quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne calcule pas encore.
On ne calcule pas parce qu'en plus, il y a ce qui a été déclaré et puis il y a aussi tout ce qui relève, par exemple, de discrimination, d'intimidation, y compris dans le monde professionnel, y compris à l'école, à l'université, etc. Et donc, tant que le sujet n'est pas reconnu comme étant un sujet de débat et un sujet politique, eh bien, la parole non plus n'est pas libérée, vous voyez. Donc ça, c'est la première mission confiée à ce coordinateur. Et puis, il y a aussi la mission de promotion, parce que le poste de coordinateur contre l'antisémitisme contient aussi une mission de promotion de la culture
juive.
Ouais. Juive. Okay. Voilà. Donc,
Et le coordinateur contre l'islamophobie
non, n'a pas cette charge-là. Mais ce serait la moindre des choses que nous puissions nous-mêmes faire la promotion de notre propre culture chez nous.
Ça serait effectivement le moins qu'on puisse dire. Jean-Yves Le Gallou.
Oui, moi j'avais une question sur les chiffres que vous avez cités, qui sont ceux de M. Nunez, en ce qui concerne les actes anti-chrétiens.
Vous avez dit 40, premier 45, semestre 2026.
Vous avez dit 40-45%, oui. 40-45% pour les actes anti-juifs ou antisémites, oui. Et 14% pour les actes anti-musulmans. Oui. Je pense qu'il y a deux biais possibles. Il y a d'abord un biais déclaratif, qui déclare moins, qui ne déclare pas. Il y a peut-être aussi le biais de l'importance de l'acte. C'est-à-dire que ce n'est pas pareil de brûler une église.
Égorger un prêtre,
un prêtre, c'est quand même rare, mais ou brûler une église, ou vandaliser une église, et dire sale machin.
Quoi. Oui, voilà. Alors dans l'étude.
Je pense qu'il faudrait regarder.
Je suis allée voir dans le détail. Dans l'étude, il est précisé que dans ces 40% d'actes antichrétiens, 80% concernent des vols, des dégradations d'églises ou de cimetières, des attaques aux biens matériels.
C'est plus qu'une injure.
Bien sûr.
Ou qu'un dérapage. Voilà, je crois qu'il faut vraiment.
Bien sûr. Il y a des profanations aussi, évidemment.
Discriminer la gravité des faits.
Oui. Alors,
d'un point de vue en valeur absolue, on dénombre, enfin, les statistiques officielles donc, parlent de entre 770 et 1063 actes antichrétiens par an. Entre 2016, enfin en moyenne, hein, depuis entre 2016 et 2025, et cumulé donc 2016-2025 à peu près un peu plus de 9000 actes. Est-ce que ça vous semble?
Oui, ça correspond. Et sachant encore une fois que c'est, enfin quand c'est à l'échelle européenne, la France malheureusement est la première concernée.
Et alors, la France est la première concernée, pardon, à cause d'une part d'une tradition révolutionnaire où quand même l'Église catholique est vilipendée et attaquée, ses prêtres massacrés, ses églises détruites. Et aussi à cause peut-être d'une population qui n'est pas forcément acquise à l'idée d'une civilisation chrétienne.
Bien sûr, et le problème aussi, c'est ça, c'est que finalement, on parle dans le débat politique de remplacement de population. C'est évidemment le fait que ce soit un remplacement de culture qui est inquiétant. Et en l'occurrence, André Malraux le disait bien, hein, la culture, c'est ce qui s'agrège autour d'une religion. Et donc, on a, si nous voulons mener ce combat civilisationnel, ce combat culturel, le devoir de le raccrocher à ce que nous sommes, c'est-à-dire d'où venons-nous. Si nous voulons pleinement mener ce combat, il ne faut pas avoir peur de dire que nos racines sont chrétiennes. À l'échelle européenne et à l'échelle française.
Alors, je continue mes petites statistiques. Dites-moi si vous les validez ou pas, d'ailleurs. Hein. On nous dit donc que 86% des atteintes aux lieux de culte en 2020... Donc, on ne parle, tout n'est pas absolument recensé, hein, année par année. Mais 813 églises et cimetières touchés, ça c'est en 2025. Et que donc en 2025, 86% des lieux de culte profanés étaient chrétiens.
Ça me semble cohérent.
C'est pour ça que c'est très différent, parce que je pense que dans les actes anti-chrétiens et surtout antisémites, il doit y avoir aussi de l'injure. Alors, je ne dis pas que l'injure, c'est bien. C'est pas bien l'injure, mais c'est pas de même nature qu'une profanation, un vol ou une violence.
Oui, qui est factuellement constatable.
En plus,
factuellement constatable, absolument, oui, tout à fait.
Mais il y a un troisième biais, c'est que, étant donné que nous sommes dans une terre chrétienne, il y a naturellement aussi beaucoup plus de cimetières, plus d'églises, que c'est ce que vous voyez en premier. Donc c'est pour ça, c'est aussi compliqué. Ça fait peut-être partie du travail qui sera à mener de faire la différence entre un acte profondément anti-chrétien et un acte de vol, de profanation. Je veux dire, un cimetière, vous avez profané un cimetière. Bon, vous avez quand même 99% de chances de tomber sur un cimetière chrétien sans forcément dire je vais profaner un cimetière chrétien, mais un cimetière comme une église. Oui. Voler une église parce que des églises, vous en avez partout. Les temples, vous en avez moins. Les mosquées, heureusement, vous n'en avez pas encore autant que des églises.
Les
synagogues, il faut les repérer.
Il y en a quand même 2800.
Mais ça fait quand même beaucoup moins que 60 000 et quelques églises. Mais j'avais une question, c'est concrètement, est-ce que le principe c'est quoi? C'est d'élucider les faits, c'est donner des suites judiciaires, c'est comment ça se matérialise d'un point de vue juridique?
C'est aussi donner aux États les soutiens dont ils ont besoin pour mener à la fois la protection et la valorisation. Aujourd'hui, encore une fois, je pense que la valeur symbolique de ce poste n'est pas à minimiser. Parce qu'il s'agit de la reconnaissance d'une réalité qui peut être un petit peu balayée avec des guerres de chiffres, précisément parce que les chiffres ne sont pas toujours sourcés, fiables, etc. Donc la valeur symbolique est réelle, en fait, elle a une réelle efficacité. Et ensuite, elle fait partie, enfin, ce poste fait partie, enfin, relève d'une démarche tout simplement de justice à rendre aux chrétiens qui aujourd'hui sont menacés sur
leur propre sol.
Et c'est vrai qu'il faut installer ce débat, il faut installer ce sujet au cœur même des débats politiques pour leur reconnaissance, parce que si on dénie les réalités, bien évidemment, on ne cherche pas les solutions. Donc les solutions politiques, elles sont évidemment à trouver, elles peuvent aller... De la reconnaissance dans les traités ou la constitution des racines chrétiennes de l'Europe et de la France pour ensuite se déployer et c'est au nom de cela que des mesures sont ensuite travaillées pour que on enraye ce phénomène parce que après vous savez on observe souvent les faits d'actualité que c'est comme les feux, hein. Ça se propage, ça donne des idées à d'autres. La cause humaine, évidemment, ici, est imparable. Et il faut absolument que ça contribue aussi à réaffirmer, je dirais même avec fierté, ce que nous sommes. Parce que si nous ne sommes pas en mesure de dire ce que nous sommes et quel est l'héritage que nous avons à transmettre, l'assimilation n'est pas possible non plus pour ceux qui arrivent.
Alors, en termes administratifs et politiques, depuis quand existent ces postes de coordinateurs pour l'antisémitisme
2015, je crois.
Et l'islamophobie aussi, ils ont été créés de manière concomitante. Ouais. Alors comment vous expliquez, vous, au Parlement européen, que personne n'y a encore pensé pour les chrétiens?
Parce qu'il y a un phénomène, je pense, qui n'est pas nouveau, mais qui s'est accéléré. Alors peut-être à mesure aussi que nous sommes en concurrence sur notre propre sol et que nous avons à défendre ce que nous sommes. Mais il n'empêche que, 10 ans, c'est long. Évidemment, l'antisémitisme a une histoire aussi en Europe. Et c'est d'ailleurs ce poste-là qui avait été créé en tout premier. Et puis après, vous savez comment ça se passe. Hein. C'est, si on ne réclame rien, on n'a rien. Raison pour laquelle nous avons tenu, avec le groupe des conservateurs et réformistes, à porter ce sujet-là, qui est d'ailleurs, dans notre propre groupe, inscrit dans notre charte des conservateurs et réformistes européens, signé à Subiaco, et pour bien montrer aussi la paternité que nous accordons justement à une Europe... chrétienne placée sous la protection de saint Benoît.
Jean-Yves Le Gallou.
Oui, je pense que cette démarche, un peu comme celle qui se développe sur le racisme anti-blanc, c'est la prise de conscience de la majorité se concevant aussi comme une minorité, dans la mesure où ce sont les minorités qui ont des droits, et que les majorités, que ce soit les majorités blanches ou les majorités chrétiennes, en ne se considérant pas comme des minorités, ont laissé les autres prospérer et se développer.
Oui,
donc
oui.
C'est une évolution tout à fait intéressante.
Oui, en termes de stratégie, je pense aussi, de stratégie politique, nous sommes aujourd'hui dans une position où nous devons réaffirmer ce que nous sommes, parce que il y a d'un côté toute la tendance wokiste, je dirais, qui détruit les statues comme elle détruit les églises, vous voyez, c'est cette même logique de destruction.
C'était mon autre question, voilà. Est-ce qu'on sait qui sont les acteurs? Est-ce qu'on est des islamistes? Est-ce que ce sont des gauchistes?
Je pense que c'est un mélange des deux, mais précisément aujourd'hui, je n'ai pas moyen de connaître le profil des auteurs de ces faits.
Et à différence de... On continue ce que disait Jean-Yves, à différence des Blancs qui sont encore majoritaires chez eux, je pense que les chrétiens, pour le coup, sont vraiment devenus minoritaires.
Oui, c'est vrai.
Et il serait temps de le reconnaître. Alors, ça fait toujours du mal de reconnaître que les chrétiens sont minoritaires, mais c'est un fait aujourd'hui. Et donc, à partir du moment où, si on est chrétien, on est minoritaire,
faut
l'accepter et donc raisonner comme tel.
Et puis, il faut tenir ces deux dimensions du christianisme et de la chrétienté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les chrétiens qui vivent leur foi, et puis il y a aussi les chrétiens qui, sans forcément être des pratiquants, sont attachés, en fait, à la civilisation chrétienne. Il n'y a qu'à voir, je dirais, l'émotion qu'a suscité l'incendie de Notre-Dame, pour voir que des gens qui, peut-être, n'y avaient jamais mis les pieds étaient malgré tout en pleurs. Et c'est ce sentiment d'appartenance aussi qui aujourd'hui est menacé. Et moi, j'aime beaucoup quand le philosophe britannique Roger Scruton dit, de toute façon, c'est beaucoup plus difficile de construire ou de reconstruire que ça ne l'a été de détruire. Et ce sentiment d'appartenance, il est d'autant plus fort que nous voyons ce qui nous échappe.
Ouais. Alors là, ce qui nous échappe, bizarrement, enfin, je compare avec des chiffres européens. Donc ce sont des sources qui viennent de l'OSCE et de l'OIDAC, j'avoue que je ne connaissais pas cette structure, mais qui nous disent qu'en 2024, on a eu 2211 crimes de haine anti-chrétien dans l'Union européenne, et donc plus 900 en France. Expliquer cette disproportion qui est quand même incroyable, c'est-à-dire 2200 pour l'ensemble des pays de l'Union, 900 rien que pour la France.
Rien que pour la France. Bah, c'est Richard a tenté d'y répondre. Je pense qu'il y a effectivement le sujet du passif révolutionnaire. Ouais. Voilà. Et puis, il y a peut-être aussi la question de la laïcité mal comprise, qui voit dans toute manifestation culturelle ou religieuse une atteinte à la laïcité. Et pour certains, ça appelle des dégradations. Il y en a qui cassent et puis il y en a qui permettent aussi, par exemple, de ne pas rénover ou de ne pas prendre soin de l'existant. Et tout ça s'inscrit dans une même démarche qui relève finalement à la fois d'une méconnaissance de ce qu'est la France dans son histoire et puis de ce qu'est par ailleurs la laïcité qui n'exige pas que nous détruisions toute trace, sinon, on va débaptiser les rues,
on pourrait. C'est pas
on les débaptise d'ailleurs.
Les noms des villages.
On les débaptise d'ailleurs.
Les fromages.
Mais il y a eu
les croix des pharmacies, le calendrier.
On peut y aller. Une rue Barès,
les calvaires. Les calvaires. Oui.
Il y a des propositions régulières de bouleverser le calendrier pour effacer les fêtes chrétiennes et aussi de renommer les communes.
Mais vous voyez qu'il y a aussi de très belles initiatives. Je pense à Touche pas à ma statue. Je pense également
SOS Calvaire.
Voilà, c'est aussi moi, ma volonté, c'est aussi de mettre en réseau toutes ces initiatives pour qu'on se fasse aussi caisse de résonance, parce que chacun travaille dans son coin et on gagnerait en visibilité à mutualiser aussi nos efforts moyens, et nos moyens. Tout à fait.
Alors, avant de revenir peut-être sur la France et puis ensuite de manière concrète sur l'utilité à la fois du site et de la pétition, quand vous en avez parlé à vos collègues européens, est-ce qu'ils se sont sentis vraiment concernés ? Parce que est-ce que la haine antichrétienne, par exemple, existe en Pologne, en Croatie ? Ah oui ?
En Pologne, en Italie. Italie, il y a encore eu des dégradations de statut cet été, à Ischia notamment, j'ai vu. Et en Pologne, vous savez, c'est un phénomène assez étonnant parce que de fait... La Pologne est fondamentalement conservatrice, mais elle a quand même, des gouvernements qui l'étaient moins, voire pas du tout. Et moi, ce qui me frappe au Parlement européen, c'est que la Pologne, c'est le meilleur et le pire. C'est-à-dire que ceux qui sont conservateurs ont une ardeur que j'admire, et ceux qui ne le sont pas ont une hargne, justement, de destruction de ce qui reste de conservateurs dans le pays. C'est assez frappant de voir cette...
Quelles sont les forces politiques qui ont cette hargne en Pologne ?
Oh bah c'est The Left, essentiellement. Donc là où siègent LFI au Parlement européen.
Donc c'est les Verts aussi. Les héritiers des communistes, alors.
Oui, complètement. Ouais. Ouais.
Et ils sont quoi, vraiment communistes ou plutôt wokistes comme...
Alors, moi, je les côtoie essentiellement dans la commission Femmes et Égalité des Genres. Enfin, Droit des Femmes et Égalité des Genres.
Ça doit être sympa comme commission.
Donc,
ça doit être très sympa comme commission.
Donc, c'est une commission qui est la caricature d'elle-même. Voilà. Et les Polonais, les Polonaises, en l'occurrence, il s'agit plutôt de femmes, sont chez elles vraiment à l'avant-garde de ce combat wokiste. Donc évidemment ça va de pair, parce que dans leur manière de concevoir tout ce qui relève de la tradition, de la culture, de la civilisation, évidemment il y a du patriarcat. Donc en commission des femmes ça passe pas.
Arthur de Vatrigan,
est-ce que je me rappelle d'une étude que Grégoire Pupin qui avait publié il y a quelques années, peut-être 2 ou 3 ans, sur les menaces de mort et les violences à l'endroit des musulmans qui se convertissent. Est-ce que ça rentre dans la haine antichrétienne ? Est-ce que ça peut être mesurable? Parce que lui, en plus, il travaille aussi au sein de, en tout cas avec l'Europe. Son étude était assez précise, il y avait quand même quelques chiffres, des témoignages. Est-ce que ça fait partie de ce que vous voulez révéler, ce que vous voulez sortir, de mettre en avant?
Alors, ce serait une question en fait à poser à la coordinatrice en charge de la lutte contre la haine anti-musulman aussi. Parce que finalement, si par principe, dans l'islam, il n'y a pas de conversion possible et que ça relève de l'apostasie, est-ce que finalement le coordinateur contre l'islamophobie, on va réutiliser ce terme, travaillerait, puisque voilà, en lien avec le coordinateur contre la haine antichrétienne. Ce serait intéressant de les mettre en situation.
Coordinateur œcuménique, ça peut être.
Voilà, ce serait intéressant de les mettre en situation. Alors après, vous savez, il y a quand même des outils au niveau de la Commission européenne sur la liberté religieuse. Et il y a justement un travail à faire, et je le mène d'ailleurs, en lien aussi avec le commissaire en charge de la liberté religieuse et de la liberté d'expression, parce que finalement, tout est lié.
Xavier Van Liert, vous voulez intervenir ? On ne vous entend pas, Xavier. Micro.
Il est branché, mon micro.
Ça marche. On vous entend.
Très bien. Oui, je voulais demander à Mme Trochu si dans son initiative et son combat, elle avait reçu le soutien, ou au moins des contacts avec les églises, l'Église de France, et de quelle façon son initiative avait été reçue.
Oui, alors j'ai eu un très bon contact avec le nonce apostolique à Bruxelles, Mgr Oza. Qui m'a assuré du soutien du Saint-Siège pour cette démarche. J'envisage de me rendre à Rome à la rencontre de plusieurs dicastères pour présenter la démarche et obtenir aussi d'autres soutiens. Parce que bien évidemment, ce serait quand même bien triste de n'avoir aucun soutien et aucun encouragement de la part de l'Église. Dans ce combat-là. Donc,
et la conférence des évêques de France ou...
Alors, j'ai pris quelques contacts, je n'ai pas eu encore de retour, mais...
C'est joliment dit.
J'ose espérer que dans le contexte du déplacement du Saint-Père, il y aura aussi, notamment dans ses interventions, quelques mots sur ce sujet dont on a bien vu qu'à l'échelle française, il était encore plus crucial.
Absolument. Oui. Xavier, vous voulez rebondir ?
Oui, parce que je trouve que souvent, lorsque des prêtres ou des paroisses sont victimes d'actes antichrétiens, anticatholiques, on les sent assez rarement très combatifs. C'est-à-dire qu'on a même parfois le sentiment que si le prêtre lui-même est combatif, assez rapidement il est rattrapé par sa hiérarchie, qu'il rattrape par le col romain pour lui expliquer que non, pas de vague, qu'on retrouve un petit peu les mêmes phénomènes que, par exemple, dans l'éducation nationale ou d'autres institutions qui préfèrent mettre les problèmes sous le tapis. Qu'en pensez-vous ?
Il y a une difficulté aujourd'hui, effectivement, à se défendre, tout simplement. C'est-à-dire que, il faut encore une fois dire la réalité. Et je ne pense pas qu'en la minimisant, on serve la défense des chrétiens, qu'on serve la défense de notre culture. C'est aussi parce que finalement, il faut sortir de la timidité ceux qui seraient bloqués, que le sujet doit être mis sur la table, doit avoir de la visibilité pour qu'il n'y ait pas finalement de honte à reconnaître une réalité. Parce que, encore une fois, on ne trouve jamais des solutions si on ne dit pas ce qu'on voit.
Alors, on parlait du pape justement qui va venir en France, donc du 25 au 28 septembre. Est-ce que vous attendez précisément, à travers les médias ou à travers des officiels, des réactions précises ou en tout cas concrète à votre initiative? Est-ce que vous pensez que le voyage du pape peut être l'occasion pour, encore une fois, des médias ou des évêques, des prêtres, de réagir à votre proposition, voire des politiques, hein, d'ailleurs.
Déjà, la venue du pape est quelque chose de notable, parce que son prédécesseur n'est pas venu en France, il a trouvé...
Il est venu en Corse.
Alors oui, il est venu en Corse.
Il a précisé qu'il venait en Corse, mais pas en France, à Marseille, mais pas en France.
Il est venu à Marseille, exactement. Donc là, il y a quelque chose d'assumé. Et de fait, il y a, dans cet événement tel qu'il se prépare, une visibilité du catholicisme. Et ça, on peut s'en réjouir. Visibilité dans la dynamique que cela va créer, visibilité certainement aussi dans les défis qui sont devant nous et que le pape, je pense, ne manquera pas de, de rappeler. Celui que je porte, voilà, évidemment, j'ose espérer qu'il en parlera. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a de multiples manières aujourd'hui d'attaquer finalement le cœur de la, de la, de la chrétienté et du christianisme. Hein, c'est celui de l'invisibilisation. Et c'est la raison pour laquelle son déplacement a aussi cette importance, parce que il s'agit de participer à un rayonnement qui risque sinon de ne pas être visible. Et puis je pense que on attend aussi de lui qu'il rappelle la France à l'ordre, entre guillemets, enfin, France fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême, quoi, parce que c'est vrai que une civilisation ça doit être vivant, et en l'occurrence une civilisation chrétienne qui ne serait plus nourrie, ce serait un musée. Alors certes, on verrait des belles statues, on verrait des beaux tableaux, des beaux bâtiments, etc. Mais là, il vient aussi pour réveiller ce cœur de la chrétienté, pour ne pas oublier d'où elle vient, et pour sans doute aussi, j'imagine, dans son rôle, rappeler vers quoi elle tend. Et en l'occurrence, une foi qui doit être vivante et pas simplement héritée du passé.
Oui, oui, oui.
Dans votre travail pour faire connaître votre initiative, il y a une conférence épiscopale européenne.
Oui, la COMECE, effectivement, que j'ai rencontrée pour d'abord faire part de notre travail, montrer aussi que on n'est pas dans une démarche, on va dire uniquement. Vous voyez, parce que parfois peut-être certains pourraient dire, mais finalement c'est un sujet, elle en fait un sujet politique. Une sorte de récupération d'une thématique, etc.
Je vois que vous avez rencontré Monseigneur de Cinetti.
je ne l'ai pas rencontré. Mais il n'empêche que, moi, ce que je veux montrer, c'est que là-dessus, parce que j'avais fait adopter un amendement au Parlement européen, hein, qui allait bien au-delà du groupe des conservateurs. Et c'est ce que j'ai dit à la COMECE. Je leur ai dit, en fait, notre initiative part du groupe des conservateurs, mais elle a vocation à s'étendre avec d'autres groupes politiques. Je pense par exemple au PPE, qui a voté quand même clairement en faveur de mon amendement pour obtenir ce poste de coordinateur contre la haine antichrétienne. Les Patriotes l'ont soutenu aussi. Voilà, donc on a quand même une dynamique européenne qui a intéressé la COMECE et qui a vu cet amendement et qui a dit ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a aussi une union des droites sur ce sujet-là.
Est-ce que ça s'étend justement à la droite un peu centriste ou conservatrice?
Oui. Oui, le PPE avait soutenu cet amendement.
Entendu, donc ça c'est plutôt bien. Mm. Arthur de Vatrigan.
Justement, cette dynamique, est-ce qu'il y a une dynamique antichrétienne au Parlement européen? Parce qu'on voit en France les seules lois capables de transformer le pays qui sont promues, ce sont des lois qui, sociétales, qui ont pour but évidemment d'éliminer toute trace de vertu ou de morale chrétienne. Je ne parle pas de transformation démographique, parce qu'il n'y a pas besoin de loi pour que les migrants viennent, mais dans les lois décidées par les gouvernants, c'est ça. C'est les seules lois qui bouleversent et qui sont votées. Est-ce qu'au Parlement européen, vous voyez au sein des groupes une haine chrétienne?
Ah oui, très clairement. Très clairement. C'est-à-dire qu'il y a une manière de décrédibiliser tout élu qui va porter tout simplement des sujets pour lesquels on estime qu'il y a des repères qui ont traversé l'humanité et qui, de fait, constituent des limites que nous voulons défendre. Je pense évidemment à tous les sujets autour du respect de la vie. Je pense rien qu'à au rôle de la femme. Je parlais tout à l'heure de la Commission du droit des femmes, le rôle de la femme comme mère. Voilà. Et pourquoi on nous décrédibilise? Parce qu'on nous dit tout ça, c'est de la ritournelle de Cato, en fait. Alors même que la réponse qu'il faut leur donner, c'est qu'il n'y a finalement plus que l'Église aujourd'hui pour avoir le courage d'en parler de cette manière-là. Mais ce sont avant tout des fondements naturels, on va dire, une loi naturelle qu'il faut encore défendre, que pour faire un enfant, ben, il faut un homme et une femme, quoi. Et c'est une manière finalement de nous déstabiliser que de nous dire que ça ne serait qu'un argument chrétien.
C'est assez particulier, oui, effectivement. Alors, concrètement, pour en arriver vraiment justement aux aspects pratiques, donc il y a une plateforme, donc un site internet,
oui,
qui est lancé ou qui va être lancé ?
Qui est lancé déjà.
Qui est lancé. Alors, quelle est l'adresse aussi des auditeurs de Radio Courtoisie ?
Christianophobie.eu. Voilà. Sur cette plateforme, en fait, il y a une vidéo qui décrit notre démarche, qui décrit nos actions, qui renvoie aussi vers la pétition elle-même. La pétition peut être signée pour chacun des pays qui sont déjà engagés par le biais de leurs députés européens. Et puis, ça a vocation à se répandre, c'est-à-dire que si ensuite d'autres députés nous rejoignent pour que le sujet soit porté dans d'autres pays européens, bien évidemment, on les accueillera avec joie.
D'accord. Et comment ça va fonctionner tout au long de l'année ? Alors,
c'est plus que tout au long de l'année. C'est-à-dire que nous, on estime que voilà, on va arriver à mi-mandat. Il nous reste un peu plus de 2 ans et demi pour aboutir à la création de ce poste. La pétition en est un des supports. Elle n'est pas le seul. Je pense qu'on a aussi des événements au Parlement européen que nous organisons régulièrement. Des événements, je dirais, état des lieux, précisément, pour dire la réalité telle qu'elle est, pour montrer aussi quelle espérance on peut susciter et comment cette démarche s'inscrit dans un combat beaucoup plus large qui est, encore une fois, celui de la défense de notre civilisation.
Alors, justement, je reviens à la création de ce poste donc, de coordinateur. Comment se fait-il qu'il faille une pétition ? Pourquoi est-ce qu'une proposition de loi suivie d'un vote ne pourrait pas fonctionner ?
La pétition, en fait, elle permet aussi aux citoyens des différents États
d'exprimer
leurs besoins. Et encore une fois, je pense qu'on n'est pas dans une démarche uniquement, chrétienne ou catholique. On a des personnes qui nous disent, moi, j'estime que voilà, ma civilisation sur le plan culturelle doit être défendue dans toutes ses composantes. Celle-ci en est une, et donc je joins ma signature à votre projet. Parce que, encore une fois, c'est toujours quand on est dans une situation de crise que nous savons ce à quoi nous sommes attachés. Et quand il y a une multiplicité d'actes anti-chrétiens, on voit finalement la réalité de la menace. Et je pense que ça suscite aussi une volonté d'apporter sa pierre à l'édifice par le biais d'une pétition. Et c'est aussi évidemment un moyen de nous encourager, nous qui allons au front dans l'hémicycle et puis dans les différentes réunions en commission, nous savons que nous avons des gens qui sont derrière nous. Et moi, je dis toujours que dans l'engagement politique, il y a différents niveaux. Il y a, évidemment, tout le monde n'est pas appelé forcément à avoir un mandat, mais ceux qui sont derrière nous et qui comptent sur nous, on a aussi besoin de les entendre, on a aussi besoin de voir leur signature, de voir quand les jours sont difficiles et quand les vagues sont très hautes, nous nous battons pour eux, en fait. Et cette pétition, elle a aussi cette vertu qui est finalement d'être un encouragement.
Et avant de donner la parole à Arthur de Vatrigan, est-ce que vous pensez que la création de ce poste de coordinateur contre les actes antichrétiens pourrait être rejetée, refusée ? Alors moi, qu'il y en a déjà deux qui existent deux autres monothéismes.
Je pense qu'on est sûr de rien. Voilà, on est sûr de rien. Et plus il y aura de signatures sur la pétition, et plus on nous donnera les chances, en fait, de montrer que ça correspond pas simplement à quelques initiatives prises à droite et à gauche, mais qu'il y a réellement, à travers toute l'Europe, un mouvement de fond qui réclame la reconnaissance de la civilisation chrétienne.
Arthur de Vatrigan.
J'ai compris aussi que le principe était de faire aussi la promotion de l'héritage, des racines chrétiennes. Est-ce que avoir un coordinateur permet de dégager des budgets pour faire des choses ? Est-ce que, même si, évidemment, que je combats de toutes mes forces la primauté du droit européen sur le droit français, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on peut imaginer que l'Europe impose que la France ait plus de budget pour défendre le patrimoine, par exemple ? Parce que Le patrimoine français, qui est donc a priori, comme disait l'autre, ce manteau blanc d'église et de clocher, c'est dans le ministère de la culture.
Il est pas blanc d'ailleurs.
Le ministère de la culture, c'est 3 milliards et le patrimoine, c'est 1 milliard. Ouais. Donc pour entretenir notre héritage, en tout cas de pierre, d'église, de clocher, tout le reste, ça fait peu. Donc est-ce que c'est possible ça ?
Alors après, ça reste soumis malgré tout au Parlement, parce que vous savez que la particularité du fonctionnement des institutions européennes, c'est que la Commission a l'initiative législative et ensuite le Parlement se prononce. Donc on peut espérer que, effectivement, comme ce poste de coordinateur se situe au niveau de la Commission, eh bien, ça donne une impulsion pour que le Parlement lui-même, qui a quand même le Parlement aussi, évidemment, à travers les différents textes qui sont votés, eh bien, des répercussions sur les États-nations, sur les États membres, eh bien, puissent insuffler, évidemment, un état d'esprit. Parce que finalement, c'est ça avant tout qui nous manque. C'est un état d'esprit qui va inspirer des textes au niveau européen et des lois au niveau national.
C'est Raoul Glaber au XIe siècle. Voilà. Qui parlait du blanc manteau.
Bah, oui, oui, mais c'est faux d'ailleurs, parce que c'est très beau comme expression, mais c'est faux parce qu'il y avait des églises en briques, des églises colorées.
Oui, c'était coloré.
Ça ne change rien à la beauté de la formule.
C'est quand il y avait de la neige.
Non, moi j'ai fait Notre-Dame, on la refait en blond, on l'a pas fait en couleur.
Oui. Elle était colorée.
Ah oui,
comme les temples grecs.
C'est d'abord des pierres blanches et ensuite elles sont colorées.
Oui. Ouais. Non, pas forcément. Bref, la brique, c'est pas blanc.
C'était
non.
Juste pour dire un
Notre-Dame. Mais oui, d'accord. Non, mais pardon, là je.
Mais vous savez, le sujet franco-français des vitraux de Notre-Dame aujourd'hui, qui est quand même un énorme scandale, le fait que les vitraux de Viollet-le-Duc soient remplacés alors même qu'ils sont protégés par la charte de Venise qui demande de ne pas détruire un patrimoine qui n'a pas besoin d'être réparé, qui n'est pas menacé dans son intégrité, etc. C'est une autre manière, vous voyez, d'attaquer encore une fois la tradition. C'est-à-dire que les vitraux de Viollet-le-Duc ne sont pas une démonstration extraordinaire d'art, mais il n'empêche qu'ils s'inscrivent dans un mouvement, dans une tradition, dans une continuité historique que là, on va nier, finalement, pour les remplacer par des œuvres dont les interprétations diverses et variées, d'ailleurs, posent question quand même quant à l'inspiration, puisque l'auteur Claire Tabouret a l'air d'être une personne assez tiraillée sur le plan religieux et qu'elle semble avoir mis dans la création de son œuvre, je dirais, tous les tumultes intérieurs qui sont les siens.
Oui, parce que
elles sont moches en plus.
C'est bien dit.
Et puis c'est surtout qu'il y a un geste, enfin il y a une intention derrière.
Une intention.
On parle quand même d'art sacré, c'est pas non plus.
Mais Manu veut laisser sa trace.
Oui, ça, c'est manifestement.
Bah oui. Parce qu'il a dit. Est-ce que justement dans ces manifestations antichrétiennes, il y a vraiment les insultes, les coups, les blessures, les déprédations, les vols. Mais il y a aussi le fait de systématiquement considérer que la culture chrétienne était une culture patriarcale, que la culture chrétienne est une culture violente, que la culture chrétienne est une culture du viol. Autrement dit, il y a un dénigrement permanent de la culture chrétienne, y compris chez des gens par ailleurs très intelligents.
Mmh. Oui, avec un poids de l'idéologie terrible, parce que une des attaques récurrentes, c'est aussi de dire, à travers le patriarcat, finalement, la place des femmes dans l'Église catholique est encore niée, etc. Et quand on pense quand même aux grandes figures chrétiennes féminines,
il n'y a pas de Vierge Marie dans l'islam.
Exactement, exactement.
Il n'y a pas d'abbesse,
il
n'y
a pas d'abbesse, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas de. Voilà. Certaines en ont payé le prix, il y a aussi les martyrs, évidemment. Donc il y a des grandes femmes dans l'histoire de l'Église, et pour autant, vous savez, quand on ne veut pas voir, on ne veut pas voir, c'est tout. Hein. Et c'est là précisément que le travail est. De toutes les mouvances wokistes est fort, c'est que finalement ils réécrivent l'histoire et ils imposent leur récit. Pour moi, le poste de coordinateur, il a aussi ce rôle justement de vouloir réaffirmer finalement ce qui a fait notre culture, qui est celle d'une égale dignité entre l'homme et la femme, qui a été magnifiquement exprimée évidemment dans la chrétienté.
Jean-Yves Le Gallou, ensuite Xavier Vermeerde.
Moi, j'ai une question plus terre-à-terre d'arithmétique parlementaire. À supposer que votre motion soit votée par les trois groupes patriotes, globalement, je pense que c'est ce qui se passera, il vous faut combien, quelle part d'élus, principalement, j'imagine, venant du PPE, il vous faut pour le faire passer, et comment se conduit le PPE dans un certain nombre de sujets sensibles? Est-ce qu'il lui arrive, je crois que ça a été le cas sur la directive retour,
exactement,
de voter avec les groupes patriotes? dans quel cas, dans quelles conditions, et là, combien espérez-vous en acquérir, en quelque sorte, pour faire passer la motion ?
Aujourd'hui, il y a deux grands sujets sur lesquels on réussit cette union, cette coalition entre les différentes composantes de la droite. Vous l'avez dit, c'est les sujets liés à l'immigration. Je pense qu'avec le phénomène Ceuta de l'été, évidemment, ça va renforcer cette coalition. Il y a le sujet de l'écologie punitive, contre laquelle on réussit effectivement... alors, c'est dans le cadre de toutes les révisions actuelles et de tous les textes de simplification qu'on réussit finalement à détricoter le pacte vert. Et puis, sur certains enjeux civilisationnels, comme celui de la défense de l'identité, on arrive aussi à obtenir des victoires qui sont plus ténues, qui sont plus difficiles, parce que la culture du Parlement européen, c'est d'aller chercher finalement des coalitions texte par texte. Un allié sur un sujet ne sera pas forcément un allié sur un autre. Donc évidemment que moi j'ai aussi ce besoin d'aller chercher des alliés du côté du PPE. Et c'est là aussi qu'on voit que les députés des autres pays, je pense par exemple aux Espagnols, il y a une ouverture sur les sujets, sur le sujet en tout cas de ce poste de coordinateur contre la haine antichrétienne.
Xavier Van Lierde.
Oui, en fait, ma question est devenue complètement dépassée, mais je vais donc me contenter d'une remarque. Ça me fait plaisir d'entendre que ce sont des sujets tels que l'immigration ou l'identité qui permettent de rassembler des groupes de différentes couleurs politiques. Et ne faut-il pas y voir le fait que désormais, les questions d'immigration et d'identité sont devenues le vrai critère du clivage droite-gauche, finalement?
Ah oui, j'en suis convaincue. Alors c'est vrai que dans la campagne présidentielle française, on tend à nous dire que finalement, c'est l'économie qui sera la ligne de fracture. Et moi, je ne crois absolument pas. D'abord parce que l'économie, c'est un outil. Et je pense qu'il faut remettre dans l'ordre des priorités, il faut remettre l'économie à sa juste place. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'en a rien à faire du prix de l'essence, du prix du logement, ou de l'inflation sur les produits indispensables. Simplement, l'économie, ça ne fait pas une vision politique.
Et puis on s'en remet.
Il y a des combats qui, en revanche, sont cruciaux. Celui de la démographie, évidemment, en est un. Avec Marion Maréchal, nous sommes quand même parmi les rares élus à le porter avec autant d'intensité. Et je pense que à l'échelle européenne... De fait, l'enjeu de l'immigration est perçu comme par les différentes droites est conçu comme le sujet majeur parce que de fait, une évolution de population n'est pas réversible comme peuvent l'être des décisions d'ordre économique. Donc tout le monde le mesure et quand je dis tout le monde, c'est parmi ceux qui acceptent de voir la réalité. Et ça va être un test, justement, à venir. C'est-à-dire que, on a eu la directive, le règlement retour, qui s'impose aux États. On va voir comment, notamment en France, les candidats à la présidentielle vont s'engager à le mettre en œuvre. Parce que, pour l'instant, on ne voit pas M. Macron nous expliquer comment il va s'y prendre pour que ce soit appliqué. On va avoir ensuite au Parlement européen le pacte asile-immigration qui va revenir... dans les débats et j'ose espérer que les différentes composantes des droites européennes vont avoir là-dessus la lucidité qu'elles n'ont pas eue dans la précédente législature.
Jean-Yves Le Gallou et ensuite Arthur.
C'est une question un peu provocatrice. Est-ce que paradoxalement, c'est pas un peu Marine Le Pen et Jean-Philippe Tanguy qui contribuent à replacer l'économie au centre du débat présidentiel, alors que leur intérêt serait peut-être d'aller sur d'autres sujets.
C'est taquin.
Je viens de le recevoir.
Qui parle un peu d'économie.
Non, mais c'est taquin, mais c'est aussi parce que vous prenez, par exemple, des LR qui seraient complètement en phase avec des propositions sur l'immigration que le Rassemblement national met en lumière, il faut bien qu'ils trouvent une raison de ne pas venir soutenir le Rassemblement national. Donc tout de suite, on sort l'argument « Ah ben oui, mais sur les sujets économiques, on n'est pas d'accord. Voilà. Et c'est finalement le petit créneau que LR a trouvé pour justifier qu'il puisse avoir son candidat à la présidentielle. Donc voilà, et là-dessus, c'est vrai que c'est quand même c'est terrible parce que forcément, il faut répondre malgré tout, de part et d'autre. Mmh. Et c'est argument contre argument, et ça risque d'aller vers un débat qui s'enlise précisément parce que pendant ce temps-là, on ne parle pas des autres sujets.
Arthur, de Vatrigan.
Oui, non, mais vous avez raison, évidemment, sur l'économie, parce que un califat peut avoir un budget à l'équilibre, ça ne fait pas un État excitant pour autant. Mais vous avez parlé de la démographie. Est-ce que finalement, ce n'est pas le premier et le seul sujet qui compte? Parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'on ne fait plus d'enfants, donc plus de Français. Ouais. On peut résoudre tous les autres problèmes. Imaginons, on ferme les frontières, Jean-Yves Le Gallou arrive à imposer la remigration, on a une économie qui repart à la hausse, tout va très bien, mais s'il n'y a plus de Français, en fait,
Il faut s'interroger sur les causes, en fait. Et moi, je me souviens, j'ai participé plusieurs fois au sommet de la démographie à Budapest, à l'époque d'Orban. Et Orban avait cette phrase que je trouve vraiment judicieuse, il dit « la démographie, enfin, ou la natalité, c'est dans nos poches, mais c'est avant tout dans nos têtes ». Moi, je ne doute pas que tout ce qui relève de nos poches, on puisse finalement inverser la tendance. Ce qui relève de nos têtes, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce que vous avez toute la partie, on va dire, décroissante, écologique, etc., qui explique matin, midi et soir qu'il ne faut pas faire d'enfants parce que c'est mauvais pour la planète. Vous avez la non-reconnaissance aussi du rôle particulier de la femme par tous les courants féministes qui ont voulu gommer la maternité. En gros, si vous avez des enfants, vous ne ferez jamais carrière. Et donc, ça, évidemment qu'il faut se poser la question aussi de l'état d'esprit qui est insufflé, parce que comment voulez-vous qu'aujourd'hui des jeunes filles puissent envisager d'être mères alors qu'on leur dit tout le temps qu'en fait elles vont bousiller leur vie si elles ont des enfants. Et ça, c'est des sujets de fond, en fait. C'est des sujets de fond. Et puis après, vous avez évidemment toute l'idéologie qui se met en place. Et encore une fois, dans la commission du droit des femmes et de l'égalité des genres, je le vois bien, puisque aujourd'hui, on va même dire qu'un homme peut être enceint. Donc, quand vous allez jusqu'à nier la réalité biologique...
Il faut maintenir, garder l'antenne, Pierre-Alexandre. Attention. Maîtriser l'antenne.
Donc, mais le pire, c'est que pour affirmer que la pluie s'amouille et que 2 et 2 font 4 et qu'un homme et une femme, c'est pas pareil, on se prend des procès. Enfin, je veux dire, on en est là quand même. On en est là.
Non, mais il y a des idéologies, évidemment, l'éco-anxiété, sauf qu'en fait, on se rend compte que la plupart, ils justifient qu'ils prennent un avion pour aller passer des vacances. Sur le travail, ça commence à se rééquilibrer et que, de toute façon, la femme sera toujours et insatisfaite et le cul entre deux chaises. Ça sera comme ça, mais la réalité n'est pas plus simple. C'est-à-dire, n'est-elle pas plus simple? C'est juste qu'en fait, on a un pays de jouisseurs égoïstes et que des enfants, ça emmerde les gens.
Oui, mais encore une fois, pourquoi en est-on arrivé là? C'est l'individualisme.
La consommation, l'individualisme.
L'individualisme, c'est Tocqueville, hein, l'individualisme, le matérialisme et le relativisme. Hein, c'est les dérives que la démocratie génère d'elle-même. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, si vous ne rendez pas à la maternité et à la paternité, la gloire qui leur est due, vous ne donnez pas envie, en fait, de tout simplement de poursuivre l'histoire.
Parce il faut que aussi derrière, rendre aux gens la fierté de ce qu'ils sont. Exactement. Parce que s'ils ont honte à la fin, ça fait des gens qui n'ont plus aucune envie de se reproduire.
Regardez dans un dîner, quand une femme dit je suis mère au foyer, on passe à la suivante, elle n'a rien d'intéressant. Donc il y a une valorisation de la contribution aussi économique de la femme dans la société par la maternité.
Alors, il nous reste quelques minutes. Il y a une question qui me tenait à cœur, c'est quelle sera la place d'Identité et Liberté dans la campagne présidentielle menée par Marine Le Pen? Est-ce que vous y trouvez justement une place?
Parce que vous allez remplacer Jordan Bardella.
Non, c'est pas la question. Mais...
vous savez, depuis toujours, Marion a un seul mot à la bouche, c'est coalition. Coalition parce qu'on ne gagne jamais seul. Il y a évidemment, et c'est bien pour ça qu'on n'est pas au RN, on n'est pas en phase surtout, mais le principe d'une coalition, c'est exactement cela, c'est d'aller chacun avec ce qu'il est, mener une campagne derrière une candidate, avec laquelle, évidemment, il y a des négociations, évidemment, puisque toute discussion politique est au cœur même d'une campagne électorale. Mais Marion ne dévie pas de cette ligne, qui consiste à dire qu'elle ne sera pas celle qui fracturera la campagne. Et voilà, et on va jouer la complémentarité. Moi, je viens de LR, vous savez, donc évidemment, j'ai connu une autre organisation de campagne, notamment pendant la présidentielle avec Fillon. J'ai vu à quel point toutes les querelles internes pouvaient finalement empêcher un candidat. Et là, quand on voit à quel point Marine Le Pen n'a jamais été aussi proche de faire gagner le camp national. Évidemment que c'est dans cette logique-là qu'on s'inscrit.
Alors, une dernière question peut-être de Xavier Van Lierde, et ensuite on va devoir libérer Laurence Trochu qui a des obligations.
Oui, non, je, lorsque j'ai levé la main pour poser une question, on était encore sur le sujet de démographie. Ah,
il est toujours en retard.
Voilà, c'est pas grave, on peut y revenir puisqu'il est très important. Je suis tout à fait d'accord que les discours wokistes, l'ambiance générale, antifamiliale et autres comptent beaucoup dans le déclin de la natalité, de la fécondité en France. Mais on est quand même aussi forcé de constater que la fécondité s'effondre partout au niveau mondial, dans à peu près tous les pays, sauf quelques-uns d'Afrique subsaharienne. Donc il y a certainement autre chose qui tient probablement à la modernité elle-même, en quelque sorte. J'en veux pour preuve, après avoir lu un livre tout récemment paru sur la bombe de la dénatalité, que...
Au rocher.
Par exemple, c'est le symptôme le plus récent, et c'est pour souligner la difficulté du problème et son ampleur, que la fécondité chute dans le sillage du déploiement des téléphones portables, ce que l'auteur appelle la smartphonisation du monde et qui est documentée de façon extrêmement précise. Donc ce que je voulais souligner, c'est qu'au-delà de la désignation de ses adversaires qui en sont certes incontestablement, il y a peut-être une réflexion à mener sur la façon dont notre civilisation a, de façon exagérée, décider de valoriser le loisir, l'émancipation personnelle, et y compris par le travail. Voilà, je suis désolé, hein, ça n'apporte pas grand-chose, si ce n'est ouvrir des béances. Ce n'est pas une vraie question. Tout à l'heure, ça avait du sens. Voilà, aujourd'hui, on pourra en reparler peut-être après l'émission. Voilà.
Alors, bon, un mot de conclusion, peut-être vous...
Ben, pour faire des bébés, ne scrollez pas, quoi, en fait. C'est ça.
Ah ben, voilà un excellent conseil à tous les adolescents. Merci beaucoup, Laurence Trochu, et bon courage pour vos combats pour la défense de la civilisation chrétienne. Et j'espère à bientôt.
À bientôt, merci de votre invitation.
À bientôt.
À bientôt.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.